Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Dixième et dernier épisode.
En forme exécutoire d'un jugement. Quel jugement ? Commandement par le roi, la loi et la justice à Madame Bovary dans 24 heures pour tout délai. Quoi donc ? Payer la somme totale de 8000 francs ? Elle y sera contrainte par toute voie de droit et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets dans 24 heures. C'est demain. Vous savez ce qui m'arrive ? C'est une plaisanterie, sans doute ?
Non. Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais jusqu'à la consommation des siècles être votre fournisseur et banquier pour l'amour de Dieu ?
Mais le montant de la dette est exagéré !
Ah, tant pis. Le tribunal l'a reconnu. Il y a jugement. On vous l'a signifié.
Mais, cependant, raisonnons. Je n'ai rien su de ce jugement. C'est une surprise.
À qui la faute ?
Je vous en supplie, monsieur Lheureux.
Laissez-moi donc. On dirait que vous voulez me séduire.
Vous êtes un misérable !
Comme vous y allez.
Je ferai savoir qui vous êtes. Je dirai à mon mari.
Eh bien, moi, je lui montrerai quelque chose à votre mari. Croyez-vous qu'il ne comprenne pas votre petit vol, ce pauvre cher homme ? Ce n'est pas amusant, je le sais. Mais personne, après tout, n'en est mort. Et puisque c'est le seul moyen qui vous reste de me rendre mon argent...
Mais où en trouverais-je ?
Ah, bah, quand on a comme vous des amis...
Je vous promets, je signerai.
J'en ai assez de vos signatures.
Je vendrai encore.
Allons donc, vous n'avez plus rien.
Combien faudrait-il pour arrêter les poursuites ?
Il est trop tard.
Mais si je vous apportais plusieurs mille francs, le quart de la somme, le tiers, presque tout.
Eh non, c'est inutile.
Je vous en conjure. Monsieur Lheureux, quelques jours encore.
Allons bon, des larmes.
Vous me désespérez.
Je m'en moque pas mal.
Elle fut stoïque le lendemain, lorsque maître Aran, l'huissier, avec deux témoins, se présenta chez elle pour faire le procès-verbal de la saisie. Son existence, jusque dans ses recoins les plus intimes, fut comme un cadavre que l'on autopsie, étalé tout du long au regard de ces trois hommes.
Emma, qui t'amène ?
Cela te dérange ?
Non, mais...
Léo, tu vas me rendre un service. Écoute, j'ai besoin de 8000 francs.
Mais tu es folle ?
Pas encore.
Et aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui exposa sa détresse, car Charles ignorait tout. Sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien, mais lui, Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme.
Comment veux-tu ?
Quel lâche tu fais ! Si j'étais à ta place, moi j'en trouverais bien.
Où donc ?
À ton étude !
Et elle le regarda. Une hardiesse infernale s'échappait de ses prunelles enflammées, et les paupières se rapprochaient d'une façon lascive et encourageante. Si bien que le jeune homme se sentit faiblir sous la muette volonté de cette femme qui lui conseillait un crime. Alors il eut peur.
Morel, son père est riche, il ne me refusera pas, j'espère. Et je t'apporterai cela. Pourtant, si tu ne me voyais pas à 3 heures, ne m'attends plus, ma chérie. Il faut que je m'en aille. Excuse-moi.
Il serra sa main, mais la sentit toute inerte.
Adieu.
Emma n'avait plus la force d'aucun sentiment. À 4 heures, sans nouvelles de Léon, elle se leva pour s'en retourner à Yonville, obéissant comme un automate à l'impulsion des habitudes. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Il y avait dans la côte un pauvre diable vagabondant tout au milieu des diligences. Un amas de guenilles le recouvrait, et un vieux castor défoncé lui cachait la figure. Mais quand il le retirait, il découvrait, à la place des paupières, deux orbites béantes tout ensanglantées. La chair s'effiloquait par lambeaux rouges, et il en coulait des liquides qui se figeaient en gales vertes jusqu'au nez. Pour vous parler, il se renversait la tête avec un rire idiot. Alors ses prunelles bleuâtres, roulant d'un mouvement continu, allaient se cogner vers les tempes sur le bord de la plaie vive.
Couvrant la chaleur d'un beau jour, fait rêver fillette à l'amour.
Emma, prise de dégoût, lui envoya par-dessus l'épaule une pièce de 5 francs. C'était toute sa fortune. Il lui semblait beau de la jeter ainsi.
Madame ! C'est une abomination. Il y a sur la place une grande affiche qui annonce que tout votre mobilier est à vendre. Tout le monde l'a vu. Et monsieur qui va rentrer ?
Je le sais bien. Laisse-moi seule. Je lui dirai, ce tapis où tu marches n'est plus à nous. De ta maison, tu n'as pas un meuble, une épingle, une paille. Et c'est moi qui t'ai ruiné, pauvre homme. Rodolphe. Oui, Rodolphe.
Tiens, c'est vous ?
Oui, c'est moi.
Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours charmante.
Oh, ce sont de tristes charmes, mon ami, puisque vous les avez dédaignés.
Je n'avais pas le choix, Emma. C'était une question d'honneur. La vie d'une tierce personne était en jeu.
N'importe. J'ai bien souffert.
L'existence est ainsi.
A-t-elle du moins été bonne pour vous depuis notre séparation ?
Oh, ni bonne, ni mauvaise.
Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous quitter.
Oui, peut-être.
Tu crois ? Rodolphe ! Si tu savais, je t'ai bien aimée. Comment voulais-tu que je vécusse sans toi ? On ne peut pas se déshabituer du bonheur. J'étais désespérée, j'ai cru mourir. Et toi, tu m'as fui. Tu en aimes d'autres, avoue-le. Oh, je les comprends, va. Tu es un homme, toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te faire chérir. Mais nous recommencerons, n'est-ce pas ? Nous nous aimerons. Tiens, je ris. Je suis heureuse.
Oh, pardonne-moi. Tu es la seule qui me plaise. J'ai été un imbécile et méchant. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Qu'as-tu ? Dis-le donc.
Eh bien, je suis ruinée, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs.
Mais...
Mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Nous avons emprunté, les clients ne payaient pas. Aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. C'est à présent, à l'instant même. Et comptant sur ton amitié, je suis venue.
Ah. Je ne les ai pas, chère madame.
Tu ne les as pas ? Tu ne les as pas ? Oh, j'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Mais moi, je t'aurais tout donné. Et tu restes là, tranquillement, comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Qui t'y forçait ? Tu m'y as fait croire. Tu m'as pendant 2 ans traîné dans le rêve le plus magnifique et le plus suave. Hein ? Nos projets de voyage, tu te rappelles ? Oh, ta lettre, ta lettre. Elle m'a déchiré le cœur. Et puis quand je reviens vers lui qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante et lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs.
Je ne le sais pas.
Mmh.
tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscence, d'idées, s'échappait à la fois, d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. La nuit tombait. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien.
Justin ?
Madame ?
La clé, celle d'en haut, où sont les...
Comment ?
Je la veux, donne-la-moi. Il faut que je tue des rats, ils m'empêchent de dormir.
Il faudra que j'avertisse monsieur.
Non, reste. Ce n'est pas la peine, je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi.
Justin !
Montons.
Et il la suivit. La clé tourna dans la serrure, et elle alla droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main, et la retira en pleine de poudre blanche. Elle se mit à manger à même.
Arrêtez ! Arrêtez !
Tais-toi ! On viendrait. Et surtout, n'en dis rien. Tout retomberait sur ton maître.
Où étais-tu ? Qu'y a-t-il ? Une saisie ? Pourquoi ? Explique-moi, Emma.
Emma s'assit à son secrétaire et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement,
Emma,
ajoutant la date du jour et l'heure.
Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non, pas une.
Mais enfin, Emma...
Oh, laisse-moi.
Et elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille. Cet affreux goût d'encre continuait.
J'ai soif. Oh, j'ai bien soif.
Qu'as-tu donc ?
Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre, j'étouffe.
Et elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. Il la questionna, elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui montait des pieds jusqu'au cœur.
Voilà que ça commence.
Que dis-tu ?
À 8 heures, les vomissements reparurent. Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc. Alors délicatement, et presque en la caressant, il lui passa la main sur l'estomac. Elle jeta un cri aigu. Il se recula tout effrayé. Des gouttes se mettaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle, et à toutes les questions, elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même, elle sourit 2 ou 3 fois.
Ah ! C'est atroce ! Oh mon Dieu !
Parle, qu'as-tu mangé ? Réponds, nom du ciel !
Et il la regardait avec des yeux d'une tendresse comme elle n'en avait jamais vu.
La lettre !
On n'accuse personne. Comment ? Empoisonné ? Au secours ! Au secours !
Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux. Et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles.
Du calme. Il s'agit seulement d'administrer quelques puissants antidotes. Quel est le poison ?
De l'arsenic.
Eh bien, il faudrait en faire l'analyse.
Faites sauver-la.
Oui, oui. En attendant que le docteur Canivet arrive, je l'ai fait appeler.
Ne pleure pas. Bien.
bientôt, je ne te tourmenterai plus.
Pourquoi? Qui t'a forcé?
Il le fallait, mon ami.
N'étais-tu pas heureuse? Est-ce ma faute? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant.
Oui, c'est vrai. Tu es bon, toi.
Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. Et à tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne.
Allons, mon pauvre garçon, du courage. Il n'y a plus rien à faire.
Lorsque le prêtre se releva pour prendre le crucifix, Emma allongea le cou comme quelqu'un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l'homme-dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d'amour qu'elle eût jamais donné. Elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. Sa langue tout entière lui sortit hors de la bouche. Ses yeux, en roulant, pâlissaient, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher.
Fais rêver, fillette, à l'amour.
L'aveugle.
Il souffre bien fort ce jour-là. Et le jupon s'envola.
Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus.
Cette pauvre petite dame, quelle douleur pour son mari.
Sans moi, savez-vous bien, il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste.
Une si bonne personne. Dire pourtant que je l'ai encore vue samedi dernier dans ma boutique. Oh.
Cette nuit-là, le village, comme d'habitude, fut silencieux. Et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui, pour se distraire, avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château, et Léon, là-bas, dormait aussi. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l'ombre sous la pression d'un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. Justin. Les affaires d'argent bientôt recommencèrent, et Charles s'engagea pour des sommes exorbitantes, car jamais il ne voulut consentir à laisser vendre le moindre des meubles qui lui avaient appartenu. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées. Il s'acheta des bottes vernies. Il prit l'usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique à ses moustaches. Il souscrivit comme elle des billets à ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Une chose étrange, c'est que Bovary, tout en pensant à Emma continuellement, l'oubliait. Et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Chaque nuit, pourtant, il la rêvait. Il s'approchait d'elle, mais quand il venait à l'étreindre, elle tombait en pourriture dans ses bras. Par respect ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret du bureau dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient, plus de doute. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Un jour qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il rencontra Rodolphe. Ils pâlirent en s'apercevant. Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et même poussa l'aplomb jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme.
Je ne vous en veux pas. Non, je ne vous en veux plus. C'est la faute de la fatalité.
Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne y dessinaient leurs ombres sur le sable. Le jasmin embaumait. Le ciel était bleu. Des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs. Et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vue de toute l'après-midi, vint le chercher pour le dîner. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 75 centimes qui servirent à payer le voyage de Mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'enfer. L'autorité, le ménage et l'opinion publique le protègent. Il vient de recevoir la croix d'honneur.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. 10e et dernier épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Cyril Descours, Hervé Pierre, Bernard Bouillon, Mathieu Rochevarger, Julien Honoré, Yvan Cory, Pauline Ziadé, Dominique Parent, Céline Jorion, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.